Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une, ce ras-le-bol des agents de la RVA, la régie de voies aériennes de Guadeloupe, ils réclament tenir 143 mois d'arriéré de salaire. Jeudi, ils ont marché dans les rues de cette ville du Nord au Bangui pour faire entendre leur voix. Lutte contre Ebola en Ituri, l'on assiste à davantage de mobilisation. Autorités, sociétés civiles, personnels de santé et autres partenaires, tous mettent la main à la pâte, et notamment le cas Bounia, Maagi, Aru, Djougou. Tous sensibilisent la population avec comme objectif commun de stopper l'expansion du virus. Unifier la paie des enseignants, faire des banques limitées, c'est la réforme que vient d'initier la DINACOPE, direction nationale qui s'occupe notamment du contrôle de la préparation de leur paie. Alors comment cela se passe et quels en sont les avantages? Notre invité Njori Ngandou, directeur provincial de la DINACOPE dans la province éducationnelle Maniema 1, nous explique tout cela. Bonjour à toutes et à tous. Les agents de la régie et de voies aériennes RVA de Guadeloupe dans la province du Nord Ubangi et Montocréno, plus de 11 années de salaire non payé, ils n'en peuvent plus. Ils affirment que l'entreprise leur doit actuellement 143 mois d'arriéré, une situation qu'ils jugent insoutenable. Raison pour laquelle d'ailleurs la Synergie citoyenne pour le changement, une organisation de la société civile, a organisé une marche pacifique jeudi à travers la ville de Guadeloupe aux côtés de ses agents afin de dénoncer ce qu'un qualifie de violation des droits des travailleurs de la RVA de cette ville. Qu'en est-il à Skinzibatero?
C'est dans un mémorandum déposé au gouvernorat du Nord Ubangi que sont exposées les difficultés auxquelles font face les agents de la RVA Guadeloupe. Le manifestant y décrivent des conditions de vie de plus en plus précaires après plus d'une décennie sans rémunération régulière. Ces travailleurs affirment vivre dans une extrême précarité. Plusieurs d'entre eux déclarent ne plus être en mesure de répondre aux besoins essentiels de leur famille, notamment en matière d'alimentation, de soins de santé et de scolarisation des enfants, comme en témoigne l'un des agents.
Au départ, on était plus de 80 personnes. Actuellement, on n'est que 22. Nos enfants n'ont pas pu faire l'examen d'État, les examens de fin de l'année, parce qu'il a fallu payer 2 mois successifs.
Lancé le 22 juin dernier, leur grève n'a jusqu'à présent débouché sur aucune solution concrète. Malgré ce contexte difficile, les agents disent continuer à assurer tant bien que mal certaines tâches indispensables au fonctionnement de l'aéroport de Guadeloupe. Ils regrettent toutefois l'absence de réaction des autorités compétentes ainsi que le silence de la direction générale de la RVA basée à Kinshasa. À travers cette mobilisation, les agents réclament le paiement immédiat de leurs 143 mois d'arriéré de salaire, mais également la mise en place de mesures durables garantissant une rémunération régulière. Ils espèrent que leur appel trouvera un écho favorable auprès du gouvernement et de la hiérarchie de la RVA afin de mettre un terme à une situation qui perdure depuis plusieurs années.
Et du côté de Kolwezi, dans le Lualaba, c'est la société Kamoto Copper Company qui est en difficulté. Ce géant minier est placé sous scellé depuis jeudi par la Direction générale des impôts. Motif, non-paiement d'environ 3 milliards de dollars américains d'impôts, indiquent certaines sources. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH Lualaba, salue cette initiative de la DGI. Elle appelle KCC au respect des obligations fiscales. Nous faisons le point avec Paula Munanga.
Les installations de l'entreprise KCC, filiale du géant suisse Glencore, ont été placées sous scellé, entraînant ainsi l'évacuation du personnel et la suspension temporaire des activités. Selon certaines sources, la DGI réclame le paiement d'impôts estimés à environ 3 milliards de dollars américains. Nous n'avons pas pu obtenir la réaction des responsables de KCC. Pour sa part, le coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme du Lualaba, Arthur Kaboulo, invite l'entreprise minière KCC au strict respect des lois fiscales en RDC. Cependant, il exhorte toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue et la voie légale pour un dénouement rapide de ces litiges. D'après le secrétaire général de la Ligue congolaise contre la corruption, Likoko, Ernest Mpararo, ce n'est pas la première fois que Glencore et ses filiales sont accusées d'insolvabilité. Il rappelle qu'en 2022, KCC, Mutanda et Mumi étaient en contentieux avec la DGRAD, la DGI et la DGDA. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
En lutte contre l'épidémie d'Ebola en Ituri, la mobilisation se porte bien, elle s'intensifie même. Pour preuve, autorités politico-administratives, acteurs de la société civile, personnel de santé et partenaires humanitaires s'y mettent. Tous multiplient des campagnes de sensibilisation dans plusieurs localités. Objectif, renforcer toujours l'adhésion des communautés aux mesures de prévention, lutter contre la désinformation aussi, favoriser un changement de comportement afin de freiner la propagation de la maladie. C'est ce que nous dit Isaac Rémoyopé depuis Bounia.
Parmi les stripteaseurs engagés figure l'association culturelle Louri qui regroupe la communauté Lendou en partenariat avec l'INADI, une plateforme réunissant 21 communautés de l'Ituri. Depuis mardi, ces organisations mènent une campagne de sensibilisation à Bakombe dans les territoires des Djougou. Cette campagne sera progressivement étendue à l'ensemble des villages du secteur de Walendou-Dzatsi. Dans le même temps, la société civile de Ngoté a renforcé ses actions de sensibilisation à Kwandroma ainsi que dans plusieurs localités des territoires de Mahagi et Dar. De son côté, la police de la MONUSCO a organisé mercredi dernier une session de sensibilisation au centre de formation de la police nationale congolaise à Bounia. Au total, 299 recrues, dont 48 femmes, y ont pris part afin de mieux connaître les mesures de prévention et de pouvoir relayer les informations fiables auprès de la population. Des activités similaires sont également organisées dans plusieurs sites des personnes déplacées, particulièrement exposées au risque de propagation de l'épidémie. L'objectif de ces activités est d'informer la population sur les mesures de prévention contre Ebola, de combattre les fausses rumeurs et d'encourager le signalement rapide des cas suspects. Selon les organisateurs, ces campagnes commencent à produire des résultats. Les équipes de riposte reçoivent davantage d'alertes sur des cas suspects. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Une épine tout de même dans la lutte contre Ebola en Ituri, c'est que l'insuffisance des financements consacrés à la riposte, le retard dans le paiement des primes des agents de santé ainsi que des préoccupations liées à la gestion de fonds risquent de compromettre la lutte contre cette maladie. C'est ce qu'affirme le cadre de concertation de la société civile de l'Ituri dans un rapport publié jeudi à Bounia. L'organisation appelle le gouvernement et ses partenaires à prendre des mesures urgentes pour renforcer la riposte. Isaac Clément nous en dit plus.
Selon le cadre de concertation de la société civile de l'Ituri, les plans conjoints des ripostes du gouvernement et de l'OMS, évalués à 510 millions de dollars pour la période de juin à novembre 2026, n'étaient financés qu'à 35% à la mi-juin. L'organisation estime que cette insuffisance des moyens ralentit les opérations sur le terrain. Les rapports citent notamment l'absence des centres de traitement dans plusieurs centres de santé touchés, les retards des 2 mois dans les paiements des primes des risques de certains agents de santé, ainsi que des difficultés dans les suivis des personnes contact estimé à 17,4%. Il dénonce également un manque de transparence dans la gestion des fonds et des présumées irrégularités sur les listes des payes. Autre préoccupation, la faible implication des acteurs communautaires dans les décisions stratégiques. Face à ces constats, le cadre de concertation recommande la mise en place d'un comité provincial de suivi, les paiements réguliers des primes des agents de santé, l'extension des centres de traitement aux zones non couvertes, un audit indépendant de la gestion des fonds et le renforcement du traçage des personnes contacts. Le ministre de la Santé publique, Amissio Abounia, a promis de faire le suivi de ses préoccupations et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la riposte. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Réduction des violences basées sur le genre à Kinshasa et dans ses environs. Près de 40 représentantes des organisations féminines responsables de la société civile et partenaires engagés dans la promotion des droits des femmes à l'école du savoir. Elles ont été formées hier vendredi dans cette optique. Ces échanges ont permis aux participantes de développer des stratégies pour améliorer la prévention, l'identification des cas, aussi l'accompagnement des survivantes des violences sexuelles et celles liées au genre. Cet atelier a été initié par l'ONG Solidarité des femmes sur le fleuve Congo, Soufleco, avec l'appui technique de l'UNFPA. Ronelie Tibonera pour les détails.
Les participants sont désormais capables de comprendre les concepts et clés de VBG, d'identifier les différentes formes de violence, d'en maîtriser les causes, les conséquences et les facteurs des risques. Pour Narcisse Balingene, ces travaux permettront de résoudre les défis qui touchent les femmes autochtones.
Ça va nous aider encore à reconstruire ces femmes, que ce soit dans la réinsertion, que ce soit aussi à développer la confiance en elles-mêmes. Donc nous sommes vraiment capacités par la matière.
Associé à ces assises, Josué Binyangi a exprimé son souhait de devenir ambassadeur de Soufleco afin de mobiliser les communautés à contribuer à faire de la RDC un pays exemple de violence basée sur les genres.
Nous devons dénoncer la violence basée sur les genres. Nous quittons cette haute comprenant que même si on subit les violences, mais une fois récupéré, on peut toujours continuer la vie.
Conscient des défis, Béki Mboissé, responsable de Sofleco, mise sur l'appui de tous pour réussir ses paris de vaincre les VBG.
Nous invitons tout le monde à prendre conscience des droits humains. Tout être humain, que ce soit femme, peuple autochtone, pygmée et même les hommes, bien évidemment, ont le droit à la dignité.
La solidarité des femmes sur le fleuve Congo a pour mission de bâtir un réseau fort le long du fleuve Congo et de ses affluents afin de promouvoir la justice climatique, les droits liés aux ressources naturelles et l'autonomisation socio-économique.
Kinshasa encore, dans un tout autre forum, des journalistes de plusieurs médias de la capitale ont été sensibilisés hier vendredi sur la stratégie et les réalisations du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation à l'actif du PDDRCS. Près de 6420 ex-combattants déjà démobilisés, dont environ 830 femmes, plus de 1200 armes à feu, 1400 armes blanches, ainsi que plusieurs munitions récupérées depuis la mise en place de ce programme. Et ce n'est pas tout. Au moins 20 700 enfants ont aussi été sortis des groupes armés. Ainsi, le coordonnateur national du programme PDDRCS demande aux journalistes d'appuyer sa structure pour la réussite de sa mission. L'appel de Jean Dédu Ntanga Ntita au micro de Richard Junior Kamunga.
Le PDDRCS, c'est votre programme. N'oubliez pas que le DDR, le relèvement communautaire et la stabilisation interviennent dans un environnement très complexe, et cette complexité nécessite une synergie, nécessite également une très bonne communication institutionnelle et interpersonnel pour pouvoir véhiculer correctement les messages. Et la force que nous avons à travailler avec vous, c'est que le PDDRCS se distingue des autres programmes et des autres initiatives par son approche communautaire. Et cet ancrage communautaire ne peut être possible, ne peut être facilité qui est grâce à la synergie, grâce à la collaboration et au travail de proximité avec les organisations comme les vôtres.
Journée nationale du barreau hier 10 juillet, son siège de cette structure au Maniema, une occasion pour ce barreau de réclamer son propre bureau et de s'engager à sa construction. Un pas a quand même été franchi hier, c'est la pose de la première pierre par l'autorité provinciale. Ces travaux de construction prendront au maximum 2 ans selon le planning et sont financés en grande partie par le barreau et grâce aux cotisations des avocats. À l'occasion de cette célébration, un appel à l'aide est lancé aux hommes de bonne volonté pour permettre au barreau du Maniema de terminer cet ouvrage dans un délai raisonnable. Florence Kizalunga nous en dit plus.
Ce bâtiment d'un niveau sera érigé sur l'avenue 3E2. D'après les bâtonniers, être locataire depuis 2010 ne leur a pas facilité la tâche. Aimant sa profession, il s'engage à sa construction. Assani Kayombo, le bâtonnier.
C'est depuis 2010 que le barreau du Maniema, grâce au barreau américain, le barreau du Maniema a été doté d'une maison de location et dont le loyer est évalué à $350. C'est par mois. Vous voyez, chaque fois que nous organisons nos assemblées général, nous sommes obligés d'aller prendre des salles en location. Tout ça, ça nous a gêné pour dire non au statut de locataire et initier ce projet ici, dont nous venons de lancer le début des travaux. Et nous estimons que avec ce bâtiment qui sera érigé sur les terrains propres du barreau, nous serons déliés de cette malédiction de l'état des locataires. Moi, je reprends toujours le principe de Napoléon qui dit « Celui qui veut paix et celui qui paie doit ». Nous n'avons pas assez de moyens, mais les quelques réalisations enregistrées, c'est grâce tout simplement à une bonne volonté, la bonne volonté du bâtonnier et de l'équipe des membres du conseil de l'ordre qui l'entoure.
Signalons que le coût estimatif de ce projet est de $160,000. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le calme est revenu dans la cité de Dilolo, province du Lualaba, après des troubles qui ont eu lieu jeudi. D'après plusieurs sources locales, les bureaux abritant le tribunal de paix et les parquets près ce tribunal ont été saccagés puis incendiés par une foule en colère. À la base de ces incidents, la mort d'un homme arrêté au parquet à la suite d'une plainte de sa femme après une dispute. La prison de Dilolo a donc été attaquée par des manifestants. Quelques détenus se sont évadés. Le point avec Paula Munanga.
Durant l'instruction devant un OPJ du parquet, l'homme a fait un malaise. Et c'est en cours de route vers l'hôpital général de référence de Dilolo qu'il est mort, souligne l'administrateur assistant de Dilolo en charge des questions économiques et financières. Socrate Chikos précise que la famille de la victime, accompagnée par une foule de la population, est allée déposer le corps devant les bureaux du parquet près le tribunal de paix de Dilolo. La famille accuse le parquet d'avoir traîné avec la victime qui était souffrante. Les manifestants en colère ont vandalisé puis incendié les bureaux. Ensuite, ils se sont attaqués à la prison de Dilolo. Simplice Mwamba, porte-parole du cadre de concertation de la société civile dans les territoires de Dilolo, dénonce ces incidents. Mais il condamne la justice qui, d'après lui, doit être équitable dans cette entité.
Les jeunes ont incendié le parquet ainsi que les tripés. Et après, ils sont allés libérer 6 prisonniers qui étaient là. La justice doit être équitable. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas ici à Dilolo. Le magistrat a arrêté les gens arbitrairement et puis les amants.
L'administrateur assistant de Dilolo annonce que les services de sécurité ont ouvert une enquête pour retrouver les fauteurs des troubles. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Guinée équatoriale, au moins un patient suspecté d'être atteint de virus Ebola a été placé en quarantaine dans un hôtel de Malabo où sont retenus des migrants expulsés des États-Unis. C'est ce qu'ont affirmé jeudi des expulsés ainsi que des avocats qui le représentent. D'après Africa News, cet hôtel héberge actuellement 17 migrants originaires notamment d'Angola, de Mauritanie et d'Éthiopie. Ils sont transférés dans le cadre d'un accord conclu entre la Guinée équatoriale et l'administration Trump pour accueillir des personnes expulsées vers un pays tiers.
L'invité.
Unifier la paix des enseignants vers des banques limitées, c'est la réforme que vient d'initier la DINACOPE, Direction nationale de contrôle de la préparation de la paix et de la matricule des effectifs des enseignants et personnels administratifs des établissements scolaires. Pour en parler, nous recevons le directeur provincial de la DINACOPE de la province éducationnelle Maniema 1. Il nous explique le bien fondé de cette démarche. Njori Ngandu Mwanalukengu, notre invité, s'entretient avec Florence Kizalunga.
Ngandu Mwanalukengu Djori, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Qu'est-ce qui justifie cette situation de délocalisation brusque de plus de 1200 enseignants de la ville de Kindu, de la Tembe vers la Rawbank?
Ce qui justifie la délocalisation de quelques paix des enseignants de différentes banques, donc de la Tembe à la Rawbank, de la Rawbank à la Tembe, c'est la réforme de la paie. Auparavant, on constatait un désordre, un établissement scolaire avec son personnel, on trouve 2 ou 3 payés à une banque, les autres payés à une autre banque. Alors, l'État a pensé unifier cette paye-là, ramener tous les agents payés d'un établissement à une seule banque, de façon à nous permettre, nous, à contrôler, n'est-ce pas, chaque mois, l'évolution de la paye et la paye même effective des enseignants. C'est ce qui justifie cette délocalisation.
Quand vous demandez à une seule banque de payer tous les enseignants, ne pensez-vous pas que la banque sera débordée? Est-ce que cette situation ne peut pas causer d'handicap dans le fonctionnement des écoles et des enseignants?
La paix ne concerne pas une seule banque. Nous avons 2 banques payeuses ici à Kindu. Nous avons la Rawbank, nous avons aussi la Tembe. Donc ce mouvement, la délocalisation ici des paix des enseignants, nous avons pris quelques enseignants qui étaient payés à la Rawbank, parfois 2 enseignants. Et nous constatons que à la Tembe, il y a 5 enseignants. Nous prenons les 2, nous ajoutons à 5. C'est ce qui a été fait. Donc il n'y aura pas débordement. Ce que nous avons voulu, c'est l'unification de la paye, rendre une paye réelle et facile à contrôler.
Alors, la réforme en question, c'est seulement dans la ville de Kindu. Qu'en est-il des enseignants des autres territoires? Ils seront payés par les banques qui ont l'habitude de les payer?
Non, la délocalisation pour nos territoires a été déjà faite. Donc, à l'intérieur, c'est la Caritas qui est payée. Mais la délocalisation a été déjà faite, c'est la TID qui a pris relève maintenant, qui paye à travers Vodacom M-Pesa de chaque agent. Donc, tout agent de l'intérieur payé jadis par la Caritas est payé pour le moment à la TID qui a son siège à Butembo. Donc, c'est une microfinance qui paye très bien sans problème et dès qu'on lance la paye, la TID ne connaît aucun retard. Voilà pourquoi nos enseignants de l'intérieur sont payés aussi sans problème.
La TID en question n'a pas de représentation ici en province. Autrefois, nous avons suivi les lamentations de certains enseignants qui étaient obligés de quitter leur lieu d'affectation pour chercher comment se faire faire identifier et cela a pris du temps et a causé même des désagréments dans le fonctionnement de l'enseignement. Est-ce que ce problème a pris fin?
Le problème a pris fin parce que vous voyez, la délocalisation, c'est une question aussi que vous me posez pour les écoles du centre-ville de Kindu. Vous voyez, lorsqu'on délocalise, ça prend aussi du temps. L'identification a pris du temps, c'est pourquoi les enseignants se plaignaient. Et pour le moment, nous avons échangé. Moi, personnellement, j'ai parlé avec les autorités de la TID pour que l'identification des nouveaux enseignants de l'intérieur soit faite au niveau des antennes, à la sous-division. Et c'est ce qui est fait. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Les enseignants, parfois, qui se plaignent aujourd'hui, qui ne sont pas encore payés, ce sont les enseignants-là dont les numéros Vodacom n'ont pas été ouverts ou les comptes non élargis. Tout ça, il y a des problèmes comme ça qu'a connu, n'est-ce pas, l'identification rapide de ces enseignants-là. Mais pour le moment, je crois que le problème a été résolu et il n'y a pas de difficulté pour la paye à la TID.
Vous êtes sûr que ce mouvement ne va pas causer des torts aux enseignants et aux écoles de la ville de Kindu? Il y a certains qui se plaignent déjà, disant que le mois de juin est passé, ils n'ont pas encore reçu leur salaire. Ils craignent que ce soit ainsi pour le mois de juillet.
Madame, le mois de juin vient de terminer. Aujourd'hui, c'est le 6. Je crois que ce que moi, personnellement, je peux demander aux amis de la Roi Bank ou de la TMB, c'est d'accélérer avec l'identification, avec l'ouverture des comptes de nos enseignants, afin de les permettre à toucher à leur salaire, parce que le salaire aussi a un caractère alimentaire. Et donc, lorsque l'enseignant reste 30, 35 jours sans être payé, vous voyez aussi la vie des familles. Nous demandons aussi aux enseignants de suivre l'ordre établi par la banque pour faciliter la tâche aux opérateurs pour que cette paye se passe dans le calme et sans bruit.
Ngandu Mwanalukengu Jori, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Il s'agit du directeur provincial de la Dina Kopé dans la province éducationnelle Maniema 1. Et c'est la fin de ce journal de 8h de ce 11 juillet 2026. Lievin Bringa l'a préparé. La mise en nom dessinée Dieudonné Nyangasa, Babène Pongo Massimango vous l'a présenté. Merci à vous qui venez de nous suivre. Bon week-end.